10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent est en retard. Voilà. Toutes nos excuses pour ce retard, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour où ça circule bizarre sur la route. Il faut expliquer qu'il y a beaucoup de bouchons sur la route aujourd'hui. L'imam Youssef Hachmaoui est avec nous. Comment ça va, imam ?
Ça va très bien, mis à part les bouchons, mais c'est vrai qu'effectivement on s'excuse hein, aux auditeurs et auditrices. Mais il est vrai que ce matin c'était rouge, 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 malheureusement.
De toute façon les imams sont toujours en retard.
C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux.
Bon, j'ai goûté le nouveau millésime de votre miel, magnifique.
Parfait.
Très bien, grande année.
Oui, tout ouais, à fait.
Grande année.
Cette année, normalement, on se rend sur une belle année. J'avais l'apiculteur qui s'occupe du rucher, il est passé mercredi, puis regardé, puis etc. Bon, il a récupéré quand même pas mal de hausses en me disant que normalement, c'était une belle année. Ouais. Il ne s'attendait pas forcément à ça. Mais c'était une belle année.
Oui, parce que les abeilles étaient plutôt fatiguées ces dernières années.
Oui, et puis bon, après, ça n'invite pas des fois des catastrophes. Hein. Dans le même rucher, il y avait peut-être 2-3 ruches qui avaient complètement bourdonné, donc plus de femelles. Qui dit plus de femelles, plus de ponte, plus de vie, plus de miel, plus rien, parce que les mâles ne sortent pas butiner, ni chercher ni du miel là, ni de l'eau, ni du pollen, ni du nectar de fleurs. Donc il pense qu'à uniquement rester dans le rucher et consommer, manger et dormir, malheureusement. Et donc s'il n'y a plus d'ouvrières pour alimenter le rucher, il n'y a plus de nourriture, malheureusement.
Le miela ?
Oui.
C'est quoi le miela ?
Ben c'est tout ce que vous avez. Un miela aujourd'hui, on peut fabriquer du miela à partir de toutes les substances que nous avons. Ça veut dire du nectar de fleurs, de l'eau, du pollen mélangé. Ça nous donne du miela.
Bon, on fera une émission, promis, voilà. Parce pourquoi que c'est pas, tellement oui. C'est passionnant. On va tout parler des vacances aujourd'hui, premier grand week-end de départ en vacances. Est-ce qu'il y a du bénéfice dans les vacances, finalement, en islam ?
Oui, c'est très important. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait que le jihad ou ummati, donc le jihad de ma nation, les gens, lorsqu'ils entendent le lexem jihad, pensent directement au jihad armé, à la lutte, à la violence, à tuer des innocents. Surtout dans l'esprit aujourd'hui que nous avons, notamment en Occident, mais même, c'est même dans certains pays musulmans. Vous savez que, je ne dirais pas la définition, mais l'acception du jihad a 25 formes. Ceux qui, voilà, dans son acception la plus proliférée, elle se divise en 25 formes. Et une forme est, bien sûr, ce qu'on appelle le jihad armé ou encore le jihad défensif. Et unanimement, excepté les chaféries, unanimement, parce que j'ai travaillé dessus, unanimement, les savants sont unanimes pour dire qu'il n'y a une seule forme de jihad, parce que même dans le jihad armé, on en a deux. Est-il offensif ou est-il défensif ? Unanimement, chez les savants, il est défensif. Et chez les chaférites, il peut être défensif et offensif. Jihad au talab. D'accord ? Jihad au talab et jihad au dafa. Dafa, c'est le fait de se défendre et talab, le fait qu'il soit offensif. Et jusqu'aux dernières années, en Arabie, il existait, parce que même chez l'imam Ahmad, donc chez les Hanbalites, ce courant aussi qui est très présent dans le Golfe, les savants, même saoudiens, n'étaient pas d'accord sur ça il y a encore quelques années, en disant même Ben Baz et Sahman, etc., donc tous les mouftis qui se sont succédés depuis les années 30, même celui qui a rassemblé et mis en page le long ouvrage, l'œuvre monumentale d'Ibn Taymiyyah, lui-même n'était pas d'accord, et donc l'ouvrage de Jihad n'a pas été incorporé au fatwa. Et il dit, moi j'ai mis uniquement ce qui était en face pour moi, avec ses valeurs et avec ses pensées. Donc cela veut dire qu'il y avait vraiment un tri sélectif là-dedans. Et donc comme par hasard, dans son ouvrage monumental, les dernières éditions, il n'existait plus cet ouvrage-là, où Ibn Taymiyyah a lui-même attesté en disant qu'il ne peut exister de forme de jihad en islam qu'une seule forme, qui est celle qui est défensive. On vient vous attaquer, vous, votre clan, votre famille, votre pays, votre territoire, votre nation. Vous êtes dans l'obligation de vous défendre. Et il ne peut en exister un autre. Et donc, eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec ça, les savants saoudiens, jusqu'aux dernières années, jusqu'aux années 86, si vous voulez. Et à partir de là, ils ont changé un petit peu de fusil d'épaule. Mais sinon, juste avant, continuer à dire que non, ils peuvent aussi être tant offensifs que défensifs. Bon, cela étant, voilà, le prophète alayhi salatu wassalam dit que le djihad ou ummati al-siyaha fi sabilillah, cela veut dire c'est le fait de sortir, le fait de faire du tourisme, le fait de voyager, le fait de s'éclairer, le fait justement d'explorer les terres, d'explorer les cieux, de bouger, parce qu'on a toujours besoin, l'être humain, quel qu'il en soit, musulman ou pas, croyant ou pas, a besoin d'une bouffée d'oxygène. Ne peut pas rester comme ça, même le plus casanier parmi nous, ne peut pas rester comme ça à la maison, manger, dormir, regarder la télé, être sur l'internet, etc., etc. A besoin de bouger, de s'aérer l'esprit avant tout, lui et a fortiori, lorsqu'on a une famille et lorsqu'on a des enfants.
C'est pas les vacances Netflix.
Non, du tout. Et surtout pas. Et c'est bien sûr ce qu'on regrette surtout, parce que les vacances, il y a aussi une notion de famille là-dedans. Et les gens pensent famille, mais ma famille, je suis avec ma famille à l'année. Non, ce n'est pas vrai. Parce que même la famille en soi, j'ai lu une stat dernièrement, bon, qui a 3 ans déjà, hein, donc il faudrait peut-être mettre à jour, une stat de l'INSEE qui disait, qui stipulait, que l'enfant passe en moyenne 3h40 sur tout ce qui est chronophage, tout ce qui est écran. 3h40 en moyenne, hein. Il y en a, ça peut être donc 6-7 heures. 3h40 en moyenne par jour sur les écrans. Tout type d'écran. Même stat qu'on cherchait combien un enfant passe-t-il avec ses parents. La stat était de 80. 80 heures à l'année, mais c'est
ah oui,
monstrueux.
C'est pas beaucoup.
Voilà, tout à fait. Ouais, donc, et 80. Alors, on va mesurer ici, on a à peu près approximativement 80-90 heures à l'année. D'accord ? Face à 3h30, 3h40 en moyenne d'écran par jour. Donc c'est énormissime. C'est énormissime. Donc il y a cette notion de famille, parce que les parents passent peu de temps avec leurs enfants, surtout s'ils ont une activité professionnelle, père et mère. Et les enfants aussi, en entrant à la maison, il faut savoir qu'après l'école, des fois aussi, il y a des activités ludiques, sportives, etc., etc., culturelles et autres. Les enfants ne sont pas forcément à la maison à 16-17 heures. Et donc, les parents passent très, très peu de temps. Moi, j'ai des familles qui me disent, mes filles à la maison, elles ont l'impression que c'est un hôtel. Elles ne savent qu'entrer à la maison, elles se douchent, elles mangent, elles dorment, passent même pas de temps avec nous. Il y a des jours où si on a discuté, si on s'est vu 2 minutes, on est bien, mais vraiment 2 minutes, quoi. C'est effarant. Donc du coup, il y a cette notion de temps et cette notion de passer du temps avec sa famille, avec ses parents avant tout, avec ses enfants avant tout, et ensuite, pourquoi pas aussi, pour ceux qui partent au pays, et c'est une très bonne chose, les grands-parents. Parce qu'il est vrai que autant les enfants ne passent pas beaucoup de temps avec leurs parents, mais autant ils passent encore moins de temps avec les tatas, les tontons, etc. Ce que nous n'avions pas, nous, dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, c'est devenu monstrueux. Les cousins, les cousines ne se connaissent pas. Et ça, avant, on disait que les Européens sont comme ça. Les Français sont comme ça. Non, aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde. On a aujourd'hui, alors, plein de choses, même au niveau des fêtes. Avant, on se rappelle, on a même visité, nous, des cousins, des cousines qu'on ne connaissait pas trop. On allait jusqu'au fin fond de la Seine-et-Marne en transport public pour aller rendre visite à de la famille. Aujourd'hui, c'est un texto. C'est un vocal. C'est un texto en disant bon Eid, bonne fête, bon ceci. Mais aujourd'hui, on a même des condoléances. J'étais avec des familles hier qui me disent on a une très très grande famille et ils étaient peu. En me disant non, on a reçu aussi beaucoup de condoléances au téléphone et par texto parce que les gens travaillent. À l'époque, même les gens travaillaient, bon, les gens ont toujours travaillé, venaient quand même assister aux obsèques, oui, qui est vraiment un moment extrêmement important.
C'était même pas le même sens de l'engagement.
Tout à fait.
C'est ça. Donc, tant de retrouvailles en famille et pour passer du temps avec sa famille. Donc,
tout à fait.
Là, c'est du quality time, hein,
oui.
Du temps de qualité. Et ça veut aussi dire que quand on est ensemble, on est en tout temps, en pleine conscience, comme on dit aujourd'hui.
C'est, bon,
c'est pas tout le monde sur son portable et tout le monde dans la même voiture.
Ah, effectivement.
Avant, il y avait le temps des transports pour aller en vacances, où les gens se parlaient, écoutaient la radio. Maintenant, c'est tout le monde sur son portable ou sur sa tablette. Et plus personne se parle dans la voiture. Hein.
J'ai vu ça même la semaine dernière. On était invités avec des amis, on était au restaurant. Et on voyait des gens, ils étaient des fois à tabler, ils sont au moins une dizaine à table, hein, chacun sur son portable. Et on se disait, mais s'ils ont fait un petit resto comme ça entre amis, alors on n'a pas cherché, c'était vraiment de la famille ou des amis, mais chacun était sur ton téléphone et personne ne parle avec personne. Donc on s'est dit, cela veut dire même dans des moments importants, conviviaux, etc.,
oui, c'est ça.
Les gens ils sont sur leur smartphone et ne calculent pas les gens qu'ils ont en face. C'est vraiment dommage.
On écoutait la radio en voiture avant, et c'est vrai qu'il y avait qu'un programme, et personne n'avait ses écouteurs, donc tout le monde écoutait le même programme. Donc
c'est vrai,
on se battait peut-être un peu pour choisir, la chaîne et la musique. Mais...
Tout à fait. Il n'y avait pas de téléphone, et il est vrai que ce qui a vraiment gâché l'interaction humaine, c'est tout ce qui est écran, etc. Regardez aujourd'hui, même lorsque vous allez dans les lieux sains, alors on dit oui, mais l'école, le téléphone, l'écriture, l'orthographe, c'est le téléphone. En fait, Le téléphone est devenu le mot de tout, d'accord. Mais on oublie effectivement que le téléphone a réellement endommagé les relations interpersonnelles, et on le voit même à la Mecque aujourd'hui, dans un lieu d'adoration où les gens, au lieu d'être connectés en plein tawaf autour de la Kaaba, etc., c'est un moment d'adoration, les gens sont en train de tourner, puis en même temps ça filme, ça discute, ça prend plein de selfies, plein de photos en plein temps d'adoration. On n'a pas fini le culte, hein. En plein culte, les gens sont connectés avec leur famille.
Ah, ils sont déconnectés du moment qu'ils vivent, mais ils sont connectés avec leur famille.
Connectés, puis on voit des visages à travers les smartphones, et ça tourne, etc., etc. C'est devenu monstrueux.
Profitons de ce temps de vacances pour se déconnecter. Alors, on va voir le bon comportement, parce que c'est important aussi d'avoir un bon comportement en vacances. Je rappelle que si vous avez des questions à poser, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon.
Voilà, ceux qui s'interrogent de savoir où est passé l'imam Abdelali Mamoun, on n'en sait rien. Voilà. Où est-il l'imam, hein, si quelqu'un l'a vu passer quelque part, si vous l'avez vu passer à la frontière algérienne, c'est que peut-être il est en Algérie. Mais le remplaçant officiel de l'imam Abdelali Mamoun est là, avec Youssef Hachmaoui, le cher Youssef. Je rappelle que vous êtes fondateur de Janaza France.
Tout à fait.
Également. On parlait du bon comportement en vacances et ce que ça signifie pour le musulman que de partir en vacances. Déjà, faut pas s'éloigner de sa pratique.
Tout à fait. Faut surtout bien la garder à l'esprit, parce qu'on a tendance à oublier ça, et malheureusement, on a tendance à voir des gens, alors qu'on ne connaît pas forcément en France, mais de part tels qu'ils sont constitués, tels qu'ils sont habillés, on sent en eux une certaine pratique, une certaine modération, une certaine éthique, etc. Et on a souvent, de la part même de personnes pratiquantes, de personnes qui sont bonnes, qui sont cultivées, etc., lorsque ces personnes-là arrivent des fois dans des pays d'origine, ont un comportement un peu déplacé, qui ne colle pas, aux valeurs spirituelles de l'islam. Quand je vous dis ça, je vais pas dire le mot exhiber, mais c'est un peu de exhiber un peu sa fortune, exhiber un peu ce qu'on possède, montrer. Bah, généralement, il y a des gens ici qui peut-être à l'année roulent avec un véhicule normal, correct, et peut-être à l'approche de vacances va réellement acheter un véhicule de luxe pour partir avec en vacances au bled. Jusqu'à là, aucun problème. Peut-être qu'il cherche une certaine fiabilité pour la route, pourquoi pas. Mais il est vrai que avec ça, avec certains vêtements de marque, avec certaines liasses de billets parfois qu'on voit sortir, etc., c'est pas la norme, c'est pas ce qu'il faut. Et d'ailleurs, on va dire oui, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, nous interdit même, et ça c'est dans les textes depuis très longtemps, et on le sait depuis très longtemps, parce qu'on a toujours entendu, de ne pas manger dans la rue et de ne pas exhiber ce qu'on mange dans la rue. Pour quelle raison? Il peut y avoir des passants qui sont dans le besoin, voire l'extrême besoin, et le fait de voir des gens manger des mets ou manger quelque chose, peut-être onéreux, etc., pourrait se dire, ah tiens, moi je ne peux pas m'offrir ce luxe-là, telle personne arrive à manger à sa faim et arrive à acheter telle et telle chose. Donc il y a une manière de faire. Et il est vrai qu'on doit s'efforcer de manger dans des lieux discrets, de ne pas s'exhiber comme ça à l'extérieur et surtout de ne pas se montrer. Peut-être que des fois les gens le font consciemment ou inconsciemment. Consciemment, c'est condamnable, parce que ce n'est pas possible pour un musulman. Le musulman, on doit le rappeler, ce n'est pas uniquement celui qui prie, celui qui jeûne, celui qui se rend à la Mecque, c'est aussi celui qui est habillé et habité d'un code aussi moralo-éthique, et si j'ose dire aussi voilà juridique, parce qu'on est beaucoup dans les normes juridiques dans l'islam et dans les qualifications juridiques, mais au-delà, le musulman se doit d'être ici comme à l'étranger avec la même éthique et la même morale. Doit choisir aussi son lieu de villégiature. Ne va pas n'importe où. Se mélange pas n'importe où. Avec sa femme, avec ses enfants, avec ses filles, avec ses fils. Ne se mélange pas n'importe où. On dit, oh, bah, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je fais ce que je veux. Non. Il y a quand même certains coins avec soi-même et sa foi et sa spiritualité et sa conscience, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses fils, avec ses filles. On doit
se... Est-ce que ça veut dire que finalement, Il faut partir en vacances dans des pays musulmans?
Non, pas forcément. Pas forcément, parce que ça ne veut pas dire que le pays musulman est irréprochable, loin de là, malheureusement. Mais il est vrai que, franchement, il faut le dire, peut-être dans des pays entre guillemets musulmans où il n'y a pas un énorme tourisme, il y a quand même plus de conservation et de conservateurs. Pas dans le sens péjoratif du terme. Cela veut dire qu'on peut quand même se permettre d'aller à la plage en famille, entre guillemets, de manière normale, si j'ose dire, voilà, vous m'aurez compris. Cela étant...
Car mes vacances à Ibiza, c'est mort.
Vos vacances à Ibiza, c'est mort. Je préfère éventuellement vos vacances à Jakarta. Ça collerait mieux, je pense.
C'est pas la même musique.
Voilà, tout à fait. Mais voilà, pour un musulman, ne veut pas être musulman ici, pratiquant, et se dit, tiens, bah, je pars en vacances, allez, je vais à Marbella, je vais à Ibiza, je vais je ne sais où, dans les coins de Fétard, etc., etc. Un musulman clairement constitué et formé selon les règles juridiques, morales, éthiques et spirituelles de l'islam, doit choisir le lieu où il va passer ses vacances en famille. En toute spiritualité, j'allais dire oui, mais en toute spiritualité, c'est partout. C'est en tout temps et c'est en tout lieu. Suis en France, ici, je vis de manière, de manière assez conservée, avec des normes qui sont assez strictes, avec des règles, etc. Lorsque je pars à l'étranger... Je n'ai rien à voir avec tout cela. Il y a mon lieu, mais il y a surtout aussi mon comportement. Le comportement, nous, on le voit beaucoup chez les gens qui habitent ici en France ou à l'étranger et se retrouvent dans certains pays d'origine. Où voilà,
On parlait de l'ostentation tout à l'heure, mais c'est vrai que peut-être qu'il est de bon ton d'afficher sa réussite.
Oui, bien afficher sa réussite, oui, mais il y a surtout des fois aussi montrer qu'on est un peu supérieur aux autres, c'est ça qui dérange. Montrer que nous, on peut s'offrir des restaurants de luxe, des plages de luxe. Alors, il y a par exemple choisir, on a par exemple des fois des plages privées, donc elles sont propres, bien entretenues, avec des tonnelles, avec des chaises longues, avec des parasols, avec un service de qualité, on y a le droit, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'on ne va pas être trop mélangé, trop serré avec tout le monde, être dans un coin, peut-être qu'il n'y a pas trop de musique, trop de bruit, on va dire. Donc pourquoi pas? Et c'est payant, il n'y a aucun souci. Après, c'est le fait de s'exhiber devant les autres et montrer aux autres que moi, en étant dans tel lieu, dans tel restaurant, en pleine terrasse, au vu et au su de tout le monde, moi je peux m'autoriser tel lieu parce que c'est réellement réservé à une élite et réservé aux gens riches. Je peux aller consommer dans ce type de restaurant et autres sans m'exhiber devant tout le monde.
C'est pas le fait d'y aller qui est un problème.
Tout à fait.
C'est le fait de se la péter.
Exactement. Mais c'est exactement ça et on le voit beaucoup. Et on le voit beaucoup, des gens arrivés là-bas, on dirait qu'il y a les locaux et il y a nous. Nous, ça veut dire l'élite qui vient de France, qui vient de l'étranger et qui aime montrer que nous avons les moyens, car on vit en euros et on y gagne au change. Et on se retrouve dans certains pays, avec la somme que j'ai échangée, j'ai beaucoup d'argent. Et au vu du coût de la vie là-bas, telle et telle chose, je peux me les permettre aisément. Donc je peux les consommer, mais il y a aussi les consommer et s'exhiber devant tout le monde. C'est ça qui est interdit.
Vous travaillez sur le comportement, alors même si... c'est bon, on va en vacances, bon, on va en mettre plein la vue. Hein, c'est aussi... je dis pas humain, mais voilà. C'est dire, voilà, en France, on a réussi.
Oui, voilà, ça devient un petit peu la norme chez certains. Et cette norme-là, on la voit. On les voit lorsqu'ils arrivent
dans certains pays-là. Comme si les autres attendaient qu'on ait ce comportement aussi.
Il y a ça, oui, il y a ça. Et puis il y a aussi des fois, des gens aiment aussi montrer. D'accord ? Aiment aussi montrer. Alors ici, si vous leur demandez, vous êtes qui, vous êtes quoi ? ils vont toujours faire référence à leurs origines, mais arrivés au bled, ce ne sont plus leurs origines, c'est « Ah, on est des gens de France et d'ailleurs, etc. etc. » Et c'est ça, je dirais pas qu'il fait défaut, mais arrivé là-bas, on se permet certains comportements, une certaine ostentation, une certaine prétention, voire des fois même de l'arrogance chez certains, et qui ne va pas, qui n'est pas de pair avec nos valeurs spirituelles en islam.
Est-ce qu'il y a une façon de se souhaiter bon voyage dans l'islam ?
Il y a une doua, carrément, une doua du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a des douas, donc il y a des implorations bien sûr à faire lorsqu'une personne doit quitter sa famille, doit quitter ses amis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il y a une doua où le prophète alayhi salatu wassalam leur dit Estaoudi'ukum Allah, ce n'est même pas au revoir, c'est même pas au revoir ou adieu, c'est le fait que je vous laisse avec Allah subhanahu wa ta'ala, astaudi'ukum Allah, je vous laisse avec Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous laisse avec votre pratique, etc. Et la personne va y répondre qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la crainte révérentielle, at-taqwa, lorsque tu voyages, et qu'il te protège là où tu es. Donc nous avons différentes implorations, différentes invocations, du'a. Pour la personne qui voyage elle-même, va faire ce qu'on appelle les du'as, donc les invocations du voyageur. Elle va aussi souhaiter bon voyage et protection, et surtout recommander à la personne qui voyage la bonne attitude, le bon comportement, la bonne spiritualité en voyage, parce que des fois les gens oublient que ben, si je voyage, lorsque je dépense et j'achète et je consomme, etc., ça c'est autre chose. Non, ça va de pair avec l'islam et c'est hyper réglementé et rythmé dans l'islam. Donc on lui doit lui souhaiter effectivement un bon voyage sous bien sûr la protection divine. Donc c'est ça qui est important. Et on en revient bien sûr à profiter de soi et de sa famille, des parents, des grands-parents et des proches, etc. C'est l'une des choses qu'on regrette le plus en fin de vie. Il y a un super ouvrage qui a été écrit par Bronnie Ware, qui est une infirmière australienne, et qui a accompagné, qui a longuement travaillé pendant près de 30 ans dans les soins palliatifs.
Elle s'est penchée sur des gens et sur leurs regrets en fin de vie.
Tout à fait, effectivement.
C'est terrible.
Ouais. Et l'un des regrets, justement, est de ne pas avoir consacré du temps à sa famille. L'un des plus grands regrets, parce qu'elle les avait écoutés longuement, et elle disait que les 5 plus grands regrets qu'elle avait estimés, qu'elle avait entendus dans les patients en fin de vie, les mourants, faisaient témoignage, étaient surtout, voilà, l'un des 5 plus grands regrets, cela en fait partie, je pense qu'il est le 3e ou le 4e, où les personnes témoignaient en disant « j'aurais dû consacrer plus de temps à ma famille et à mes amis. Très important.
Il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour les vacances sur les lieux saints, notamment les lieux saints de l'islam. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire justement au niveau du comportement ? Est-ce que c'est des lieux de vacances finalement, les lieux saints ?
Je n'irai pas jusqu'à là, bien qu'aujourd'hui, attention, il y a quelques agences qui ont commencé un petit peu à proposer tout ça.
C'est pour ça que je vous dis c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un regain de tourisme, je mets des guillemets, ça passe pas à la radio, de tourisme religieux.
Oui, parce qu'avant, lorsqu'on parlait effectivement Arabie, on pensait Arabie, alors notre cerveau allait directement à quoi ? La Mecque et Médine. Aujourd'hui, l'Arabie, avec ce qu'elle a fait, ce qu'elle a déployé en tourisme, en investissement aussi dans des grands clubs, en investissant aussi sur des grands joueurs, etc., bah les gens commencent à penser aujourd'hui Arabie. Effectivement, il y a les lieux saints, mais ça commence aussi à être un pays hyper développé dans telle et telle chose, et aujourd'hui aussi au niveau des sports. Donc, mais il est vrai qu'aujourd'hui ça existe aussi, hein. Des gens partent aussi en vacances, Ramadan ou hors Ramadan, vont aussi en vacances, et je dirais pas que c'est fini. La majeure partie reste bien sûr dans des hôtels proches des lieux saints, mais il y a aussi des gens qui décident de franchir le pas et de se dire, on va s'installer dans telle ou telle ville, qui est peut-être à une heure et demie des lieux saints, en famille, avec une villa, avec une piscine, proche de la mer, etc. On pourrait y faire des activités, du loisir, et en même temps, se ressourcer spirituellement.
Alors, on pense à tous ceux qui nous écoutent sur la route, qui sont sur la route des vacances.
Ils ont de la chance, c'est bien.
Voilà, il y a ceux qui partent en vacances. Bonnes vacances à tous. Et on vous retrouve très bientôt.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.